Géopolitique, Éric Bataillon.
Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau numéro de l'émission Géopolitique sur RFI. Ce samedi, nous allons effectuer une plongée dans l'action secrète de la France dans ses anciennes colonies africaines. À l'heure où ces pays tournent le dos à la France, du Mali au Burkina Faso, du Niger à peut-être le Sénégal selon le programme panafricaniste du nouveau président, un homme a été pendant près de 20 ans un témoin de premier plan de l'évolution hors norme du continent africain. Tour à tour officier de liaison auprès des autorités nigériennes, conseiller spécial du président tchadien chargé de mission à la présidence ivoirienne, il a été un observateur privilégié de l'action secrète de la France dans ses anciennes colonies où recrutement et manipulation ont été le lot commun de ce métier du renseignement à haute valeur ajoutée. Et cet homme, officier du secteur Afrique noire de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure de la France, est notre invité Jean-Pierre Auger. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Mareuil Éditions cet ouvrage « Afrique, adieu », qui nous plonge dans cette action secrète dont, par définition, nous ne savons rien, ou presque, mis à part peut-être les conséquences heureuses ou désastreuses. Jean-Pierre Auger, qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger ces mémoires, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit ?
Oui, je voulais tout d'abord faire connaître, ou mieux connaître, un secteur, un département opérationnel de renseignement d'exception qui était le secteur Afrique noire, appelé SRN, de la DGSE des années 80 aux années 2000. Pourquoi ? Parce que tous mes prédécesseurs ne sont plus de ce monde et je pensais qu'il était certainement utile de, et même important de rendre hommage à ces officiers à qui l'on doit un secteur dont l'expertise était reconnue au plus haut niveau de l'État. J'ai surtout essayé de faire un récit d'atmosphère basé sur une trame historique, le crépuscule de la France-Afrique, c'est-à-dire cette période où déjà certains indices, surtout dans les années 90, laissaient entendre que l'influence de la France devait être défendue et présentait déjà quelques signes de faiblesse. Voilà, donc c'est une période surtout marquée par le rejet d'un ordre ancien. Les Africains aspiraient, dans une grande majorité d'entre eux, au multipartisme.
Alors avant d'aller plus avant sur la connaissance de cet étrange métier d'espion, pouvez-vous nous en dire plus sur vous-même ?
Oh, eh bien écoutez, comme nombre de mes camarades officiers notamment, qui ont choisi de servir dans les services spéciaux, nous étions 17 dans notre promotion de Saint-Cyr. Tout d'un coup, je pensais, pour l'avoir choisi, ce qui est quand même pas mal, dans des domaines très divers.
Donc vous êtes un militaire à la base ?
Voilà. J'ai fait Saint-Cyr, la cavalerie, la Légion étrangère, et au sortir de mon commandement à la Légion étrangère, j'ai choisi d'entrer dans les services spéciaux, avec déjà la pensée de servir en Afrique.
Pourquoi les services spéciaux plutôt qu'un service habituel militaire ?
À l'époque, donc dans les années 80-85, il n'y avait que la Légion et les troupes de marine qui, de temps en temps, allaient faire le coup de feu ou dans des pays qui est un peu agité. Je ne voyais pas très bien, là je me suis trompé, ce qui allait arriver dans les années suivantes, l'Afghanistan, le Kosovo, l'Irak et j'en passe. À l'époque, c'était les soldats de la paix qui servaient éventuellement à l'ONU. Donc je ne me voyais pas poursuivre une carrière, la carrière normale, d'état-major, de peu de commandement. Voilà, je voulais chercher un peu l'aventure aussi.
Vous vouliez être un soldat de la guerre plutôt que de la paix ?
Je pense que les soldats doivent servir quand la guerre est là, surtout. Je ne voulais pas effectivement passer ma vie, je vous le dis, dans des états-majors ou dans des structures où... voilà.
Alors, le 2 septembre 1985, Jean-Pierre Auger, vous franchissez les portes de la centrale, boulevard Mortier, à Paris. Dans quel état d'esprit ?
J'avais été préparé parce que j'avais été reçu quelques mois auparavant par un colonel dont je parle dans le livre et qui m'avait vraiment, j'allais dire, séduit. Et j'étais très enthousiasmé à l'idée de faire au service de la France. Hein. Je ne rentrerai pas dans les renseignements généraux, qui sont également au service de la France, j'en conviens. Mais ça s'inscrivait davantage dans ce que je m'étais fixé comme service.
Justement, ce colonel que vous évoquez, c'est le colonel Vanet. Et justement, page 24, Jean-Pierre Auger, vous écrivez « En se prononçant pour mon recrutement, le colonel Vanet savait qu'avec le temps, mes idéaux s'éroderaient, confrontés à la réalité d'une vie d'agent de renseignement manipulant et manipulé, et aux manœuvres d'une hiérarchie peu encline à prendre la responsabilité des inévitables échecs de l'action secrète. » Alors, beaucoup de choses dans cette phrase. D'abord, les idéaux. Quels étaient ceux de ce jeune homme que vous étiez qui entre en vie secrète, comme peut-être dans un sacerdoce ?
Les idéaux, chacun les ressent ou les ressent moins. Les motivations sont diverses. J'étais cet idéal de Saint-Cyr, déjà d'avoir la chance d'entrer à Saint-Cyr, se poursuivait dans des services qui, par nature, sont appelés à faire des actions qui peuvent ne pas être très faciles. Ce secret, cette initiative, cette autonomie, tout cela me plaisait.
Certains ont dit que vous étiez de gauche. Alors à l'époque, c'est François Mitterrand qui est président de la République, peut-être par analogie.
Non. Je fais une petite anecdote au cours d'une petite soirée que j'intitule « Nos temps de baisons de classante », un report dans un cadre un petit peu mondain. Et effectivement, Saumur, à l'époque, n'était pas réputé. Et d'ailleurs, les armées, je n'oublie pas que le président Mitterrand avait, enfin pas lui d'ailleurs, mais ses proches avaient envisagé même la dissolution de la Légion étrangère. Je ne vous cache pas qu'à la Légion, ça avait été assez mal perçu.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Autre élément dans cette phrase, manipulateur et manipulé. A-t-on toujours conscience de cela lorsqu'on est sur le terrain ?
On finit par en avoir conscience. Je pense que la confiance est un terme clé pour la réussite des actions, y compris dans les services spéciaux, dans l'armée, mais y compris dans les services spéciaux. Lorsqu'on commence à nourrir une certaine défiance à l'égard de la hiérarchie, les choses se compliquent.
Alors justement, la question de la hiérarchie, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais vous n'êtes pas tendre avec elle, pour quelle raison ?
Alors, oui et non. Je suis très reconnaissant et n'ai jamais eu le moindre problème avec les grands chefs, c'est-à-dire les directeurs généraux, les directeurs du renseignement que j'ai eus, et même, j'allais dire, les chefs de service. Moi, mon problème, ça a été les intermédiaires, ceux que l'amiral Lacoste dénonçait, c'est-à-dire les conseillers... Ça a été un problème. Ça a été parfois un problème parce qu'il pouvait rendre la vie un peu difficile. Et puis, je parle d'un trou d'air dont nous parlerons peut-être dans les années 2000, qui là, alors là, ça devenait encore plus difficile.
Oui, nous en reviendrons évidemment sur ce changement peut-être de stratégie de la DGSE à partir de 2002. Les échecs de l'action secrète sont-ils inévitables et quelles conséquences peuvent-ils avoir ?
Inévitables, oui. Toute action difficile, moi, je ne suis pas du service action. Mais si je me réfère au dernier épisode pour essayer de sauver l'otage en Somalie, oui, il n'y a pas de réussite à 100%. C'est inévitable, mais tout est fait, ou le Rainbow Warrior, là, pour parler de mon époque, mais tout est fait pour essayer de l'éviter. Enfin, faut l'espérer, en tout cas.
De 1986 à 2002, Jean-Pierre Auger, vous êtes officier du secteur Afrique, que l'on appelle le SRN, vous l'avez dit. Quelles en étaient les caractéristiques ? D'où venaient d'ailleurs ces OT, ces officiers traitants dont vous étiez ?
Alors, le secteur Afrique noire a été créé en 1961, donc au lendemain des indépendances, par le capitaine Robert, qui est devenu ensuite ambassadeur au Gabon. Et ces caractéristiques, outre le fait de travailler sur l'Afrique et d'être formé pour aller sur l'Afrique, ces caractéristiques étaient sa militarisation. C'était le secteur le plus militarisé du service, je dis bien hormis le service action, bien sûr. Alors pourquoi était-il militarisé ? En grande partie parce que les pays dans lesquels nous allions étaient eux-mêmes, pour beaucoup, dirigés par d'anciens militaires ayant servi dans l'armée française ou dans leur propre armée. Général Yadema, Mobutu, enfin, il y en a beaucoup. Mais également parce que les conditions de travail n'étaient pas simples et les militaires, les capitaines, qui étaient recrutés généralement à ce grade, nous les connaissions. Lorsque je les ai moi-même recrutés au vu de leur dossier et en les écoutant, on avait quand même une idée assez précise du monsieur que l'on avait en face de soi. Et puis, bon, il est vrai que il y avait une discipline, alors une discipline qui n'excluait pas de pouvoir dire tout ce que l'on avait envie de dire à ses chefs. Et c'est ce que j'ai apprécié là-bas.
La formation des nouveaux OT, ceux qui rentraient, que vous recrutiez, est-ce qu'il y avait une formation commune? Étaient-ce tous des militaires ou bien venaient-ils d'horizons différents?
Non, on était à l'époque, quand je suis rentré, il y avait à peu près la moitié d'officiers, la moitié de civils. Et bon, les uns et les autres choisissaient en fonction de leurs souhaits, puis également de ce que la maison estimait devoir être le mieux pour eux. Mais il est vrai que peu de civils choisissaient l'Afrique.
Vous-même, Jean-Pierre Auger, en quoi a consisté précisément votre formation d'espion, votre stage, ainsi que vous l'appelez ?
Bon, tout d'abord, on a un stage de 6 mois qu'on appelait le stage A. Je ne sais pas si... Bon, pendant 6 mois, on nous enseignait les bases. Tout d'abord, le pourquoi de notre présence dans ces services, c'est-à-dire les missions que l'on nous confierait. Donc ça, c'était une formation assez sérieuse. Et le B.A.B.A., je dis bien le B.A.B.A. Sur le terrain de l'action clandestine. Voilà, au bout de 6 mois, on devait savoir pourquoi on était vraiment là.
Et vous saviez comment le faire?
Alors là, c'est là que le secteur Afrique noire intervenait. Nous avons toujours eu à cœur, mes chefs avant moi et moi, de former les officiers qui sortaient du stage A à l'action en Afrique.
Alors justement, vous le disiez il y a quelques instants, au moment de votre formation, un événement important s'est produit, l'affaire du Rainbow Warrior à Auckland, oui, en Nouvelle-Zélande, le sabotage du navire amiral de l'organisation écologiste Greenpeace qui devait se rendre à Mururoa pour empêcher un essai nucléaire français. Était-ce un sujet de conversation pour vous qui étiez en formation, sujet de conversation et d'inquiétude aussi peut-être pour vous?
Ce n'était pas un sujet qui a été abordé par nos instructeurs. C'était bien, on avait d'autres choses à faire, on avait des choses à apprendre, on n'avait pas à commenter ce qui se passait. Il ne faut pas oublier aussi que le gouvernement lui-même a dit que rien ne s'était passé, enfin qu'il n'était pour rien dans cette affaire. Bon, on a vite compris, les stagiaires, que d'une façon ou d'une autre, la maison était impliquée dans cette histoire. Ça, on l'a vite appris. Puis après, évidemment, après l'enquête qui... On disait que la maison n'était pas impliquée, on l'a vite su. Mais non, c'était pas une source d'inquiétude. Et même, je l'écris, je crois, on se disait que une maison qui fait des choses comme ça, ça a loupé, mais c'est quand même une maison qui est encore tonique.
C'est un échec, en réalité.
C'est un échec, en réalité. Et on l'a payé cher, la direction du renseignement. Et la civilisation en est une des conséquences.
De quelle manière cet échec a eu des conséquences?
Des conséquences politiques. Je ne fais pas trop de politique, Mais là, je reconnais quand même que le président Mitterrand a rendu responsables les chefs de cette maison et notamment les militaires. Et l'action de l'amiral Lacoste a énormément joué en faveur des militaires, en disant « attention, ils n'ont pas, c'est pas un coup d'État, ils ont exécuté des ordres ». Donc c'est une décision politique prise par le président Mitterrand de civiliser ou démilitariser, cette maison. Alors il y a eu des périodes d'accélération sous le préfet Zitberzan, des périodes de calme sous le préfet de Watt, et puis c'est reparti de plus belle depuis.
On vous a formé à l'espionnage, mais vous a-t-on formé également au contre-espionnage?
Non, je ne voulais pas... Bon, quand je dis bien sûr, on a une idée de ce qu'est le contre-espionnage, et lorsqu'on nous alerte et lorsque l'on nous adresse des directives de recherche sur tel ou tel point qui concerne le contre-espionnage, on le fait du mieux qu'on peut. Mais à l'époque, je ne voulais pas servir dans le contre-espionnage, car il servait beaucoup moins à l'étranger. Et ceux qui servaient à l'étranger, on s'en méfiait au retour, sur tous les pays du bloc de l'Est, en imaginant qu'ils avaient peut-être été recrutés sur place. Donc, le contre-espionnage a évolué pendant que j'étais au service, et puis le contre-terrorisme l'a supplanté.
Néanmoins, après votre stage 1, à l'heure des choix, vous hésitez entre le contre-espionnage dans le monde arabe et le secteur Afrique noire. Et finalement, vous optez pour l'Afrique noire. Pourquoi précisément ce choix ?
J'hésite pas longtemps, en tout cas. C'était une chose qui m'intéressait, mais je...
À la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'était peut-être un élément important.
Oui, mais je ne regrette rien. L'Afrique, pour moi, c'est, je l'ai connue entre l'âge de 10 et 12 ans, j'y fais allusion dans le livre, au Cameroun. Ça m'avait beaucoup plu dans les années 60. Ensuite, à la Légion étrangère, j'ai pu me promener au Tchad, en Centrafrique, à Djibouti, à Mayotte. Voilà, donc l'Afrique, j'avais envie de l'Afrique.
Et puis il y avait peut-être une dimension politique intéressante à cette époque, dans les années 80-90, entre la France et l'Afrique.
Ça, à la limite, je m'en souciais peut-être pas suffisamment. Ce que je savais, c'est que l'Afrique permettait aux officiers qui y étaient de mener un travail un peu difficile, parfois compliqué, mais tous étaient enthousiastes. Tous ceux que j'ai connus aimaient ces pays.
Et justement, sur le terrain, quels étaient vos rapports avec les locaux, les Africains, et aussi avec les expatriés, voire vos concurrents ?
Alors, les Africains, oui, ça m'a beaucoup servi de faire ma sixième, ma septième chez eux, au Cameroun, parce que je connaissais un petit peu. Ces idées ont changé en France avec une immigration qui est assez non contrôlée, qui est un petit peu critiquée sur bien des points. À l'époque, je trouvais que c'était un peu nos cousins. Ils nous avaient servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le général de Gaulle lui-même ne parlait que de faire perdurer l'amitié franco-africaine, enfin des Français pour ses anciens tirailleurs sénégalais. Il leur en était reconnaissant. Donc pour moi, je me sentais proche d'eux. Alors là, je les ai pratiqués de très près, en revanche, au service. Alors que dans l'armée, on les pratique de façon différente quand on est en opération.
Et nous y reviendrons dans la deuxième partie. Et les expatriés ?
Alors, les expatriés, c'est un peu compliqué parce que j'ai eu beaucoup de relations avec des expatriés qui m'ont aidé, dont certains sont devenus honorables correspondants. Il fallait, par exemple, je prends le cas du Tchad, je me suis complètement coupé de la communauté française, quasiment, parce qu'elle n'appréciait guère le caractère dictatorial d'Idriss Déby. Donc je préférais me mettre en retrait dans ce pays. Au Niger, à l'époque, j'avais beaucoup de contacts avec les expatriés sympathiques.
Et avec votre concurrent des autres services étrangers, et notamment soviétiques à l'époque ?
Alors, sauf avec certains services comme les services anglais où on m'a demandé de travailler un petit peu dans tel ou tel pays, on se connaissait bien souvent. Je me rappelle du Niger, par exemple, le club diplomatique que j'en fais état où on me demande de le présider.
Vous êtes président, de ce club.
Et je succède à l'Algérien qui a succédé à l'Américain qui, tous les deux, étaient deuxième secrétaire d'ambassade, enfin bref, des services. Voilà, donc on se connaissait, on se croisait, mais on n'avait pas de contact.
Aucune difficulté avec vos concurrents directs, mais sur le terrain, vous étiez quand même en opposition.
Nous étions quand même maîtres chez nous à l'époque. Les Russes étaient là, les Russes, les Iraniens, mais pas de difficultés. Je me méfiais davantage des bavardages ou d'expatriés ou d'affairistes, comme je le dis, voire de diplomates. Pas toujours méchants, bien sûr, c'était pas le... mais inconsidérés.
Jean-Pierre Auger, on se retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie de l'émission pendant laquelle nous évoquerons dans le détail vos missions au Niger, au Tchad ou encore en Côte d'Ivoire. Mais tout de suite, le journal.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr. Géopolitique, Éric Bataillon.
Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de l'émission Géopolitique sur RFI, consacrée à l'action secrète de la France dans ses anciennes colonies africaines, avec Jean-Pierre Auger, un homme qui a été pendant près de 20 ans un témoin de premier plan de l'évolution hors norme du continent africain et qui le raconte dans un livre de mémoire, Afrique à Dieu, publié chez Mareuil Éditions. Jean-Pierre Auger, en août 1989, vous êtes nommé à l'ambassade de France à Niamey, au Niger. Comment se passe votre entrevue avec l'ambassadeur en poste à l'époque ?
Oui, là j'en fais état dans le livre parce que c'était suffisamment amusant pour le dire. Hein. L'ambassadeur avait travaillé chez Jacques Foccart au sein de la cellule africaine de l'Élysée. Donc il avait en lui une attitude qu'il caractérisait, c'était la droite chiracienne, la droite focardienne. Donc la première question qu'il me pose, effectivement, c'est « êtes-vous de gauche ou de droite ?» Bon, et je lui ai répondu du tac au tac, « écoutez, cela dépend de mon auditoire, de qui j'ai en face de moi, tantôt à gauche, tantôt à droite. » Je savais que ça l'agacerait peut-être, et effectivement, c'est ce qui s'est produit.
Réponse d'espion, en fait.
Oui, moi j'ai servi des gens de gauche, de droite, j'ai eu des ambassadeurs classé à gauche, avec lequel je me suis particulièrement bien entendu, parce que chacun faisait son travail. Et puis j'ai cet ambassadeur qui me citait, sans me citer, mais je savais que c'était moi, qui, dans son livre « Un ambassadeur en France-Afrique », qui est paru il y a une dizaine d'années. Bon, c'était plus compliqué, on va dire.
Un mois plus tard, un mois après votre nomination, un avion de la compagnie UTA explose au-dessus du Ténéré avec 170 passagers à bord, dont 54 Français. Avez-vous participé à l'enquête et si oui, quelle piste avez-vous suivi ?
Non, je n'ai pas participé physiquement. J'ai aidé ceux qui le faisaient à disposer des moyens de communication, notamment, et y compris de la DST, ce qui était une première. Je pense que c'est une des premières missions où la coopération a joué.
Mission extraterritoriale,
oui,
pour la DST.
Oui, bien sûr. Mais même entre les deux, c'était assez rare et j'avais reçu la visite d'un de ses chefs qui en était particulièrement satisfait. Alors ensuite, effectivement, on m'a orienté, ça je le mets, ça ne, enfin, je ne pense pas faire atteinte au secret défense. Comme le gouvernement ne savait pas exactement vers quelle piste se tourner, Ahmed Djibril, les Iraniens, les Libanais, j'ai travaillé pendant quelques temps sur la communauté libanaise, j'ai regardé de plus près. Elle était tellement réduite à quelques centaines de ressortissants que ça a été finalement assez vite réglé. Et l'histoire dit que ce n'était pas de ce côté-là, c'était les Libyens.
Justement, quel était votre rôle en tant qu'officier de liaison auprès des services de renseignement locaux ?
Il importait à l'époque, quand on le pouvait, d'entretenir des relations. Alors, ces relations, elles se voulaient relativement franches, amicales, et apporter un soutien de temps en temps dans la formation, voire parfois dans la technique, dans l'entretien de certains matériels. C'était une façon pour les postes qui ne disposaient pas d'un accès direct au chef de l'État, les fameux postes de liaison et de renseignement, d'avoir quand même une source proche du pouvoir susceptible de les aider à comprendre telle ou telle chose, voire éventuellement à faciliter le travail d'équipes du service sur place.
L'influence française, elle passait par ces officiers-là ?
J'allais dire oui, dans une certaine mesure. Plus la qualité des relations était bonne avec les chefs d'État, ça va de soi, mais également avec les services qui en référaient à leur chef d'État, et plus le contact était fructueux.
Jean-Pierre Auger, avez-vous été témoin des prémices de la rébellion Touareg et quelle réponse y avez-vous apporté, peut-être, au nom de la France, bien sûr ?
Bon, là, je ne suis qu'un acteur qui était chargé d'une mission déterminée. Le service avait employé le préfet Zilberzan qui tenait à jouer, que la France joue ce rôle de médiateur, qui était la deuxième fois où le service intervenait dans ce type d'action. La première fois étant dans le règlement de la crise sénégalo-mauritanienne. C'était le même colonel, d'ailleurs, qui a été nommé à la tête de cette nouvelle opération. Donc il avait pour lui les moyens techniques, l'aviation de la maison, le service action, le service Afrique, enfin, qui travaillait pour lui, et moi-même, qui sur place, bien évidemment, était l'homme permanent qui transmettait à Paris ce que les autorités nigériennes entendaient faire ou non. Le colonel en question, dont je parle, Via, venait de temps à autre poursuivre ses contacts.
Vous disiez justement que celui qui avait été choisi pour essayer de régler une forme de conciliation entre les Touaregs et le pouvoir à Niamey, c'était le préfet Claude Zilberschan. Il venait de la DGSE.
Bien sûr. Le préfet...
Pourquoi lui plutôt que le Quai d'Orsay ?
Non, le préfet Zilberschan avait... D'abord, il ne faut pas oublier qu'il avait été formé par l'École nationale de la France d'Outre-mer, qu'il avait donc une formation africaine. Et la deuxième chose, c'est qu'il était proche du président Mitterrand. Il avait un accès direct au président Mitterrand. Donc je pense qu'il a joué de son influence pour dire que le Quai d'Orsay, comme n'importe quelle... Aucune structure française n'existait alors pour régler ce type de problème. Seule la DGSE possédait les hommes, les moyens aériens, les moyens... Enfin bref, la façon clandestine de travailler.
Alors justement, Jean-Pierre Auger, vous adressez des reproches dans votre livre, enfin des reproches,
oui,
enfin, vous avez des commentaires en tout cas, sur de méfiance envers deux administrations, le Quai d'Orsay d'une part, et d'autre part la DGSE, mais la DGSE avec le clan des Arabisans, dans la foulée de la nomination de Jean-Claude Cousserand en 2002.
Pourquoi ? Ah oui, là vous sautez une quinzaine d'années. Alors le Quai d'Orsay, aujourd'hui... J'ai pris connaissance d'un article de l'Express qui peut-être un peu extrapolé ce que je disais. Je n'ai aucune critique sur le Quai d'Orsay à faire, si ce n'est que dans le Quai d'Orsay, il y a des ambassadeurs qui peuvent parfois poser quelques problèmes, en ce sens qu'ils n'ont pas forcément de bonnes dispositions à l'égard du service. Donc moi, j'ai travaillé avec des ambassadeurs avec lesquels je me suis parfaitement entendu. Par exemple, le premier ambassadeur en Côte d'Ivoire, M. Lot, m'a superbement ignoré pendant l'année où il était encore. Il avait peut-être des raisons. Et le second, ça a été formidable avec M. Renaud Vignal. Pareil au Tchad. Quand je suis arrivé au Tchad, M. de la Messuzière, qui était très... critiqué par le président Déby, qui ne voulait plus entendre parler des ambassadeurs, qui s'occupait plus de l'opposition que de son propre régime. Eh bien, quand M. André Janier est venu, nous avons vraiment marché la main dans la main. Quand je pouvais lui rendre service, je le faisais, à partir de la présidente. Et lui-même m'a rendu service ne suivant pas les injonctions de l'ambassadeur des États-Unis qui demandait mon renvoi en France, puisque son épouse avait reçu 3 impacts dans la voiture en s'arrêtant devant la présidence. Donc non, le Quai d'Orsay, ben, les personnes, c'est quand même dans toute administration.
Mais à quel moment, précisément pour vous, l'influence française a-t-elle commencé à baisser en Afrique ?
Oui, alors je reviens à l'affaire dont vous parliez de M. Cousserand et des Arabisans. Non, le problème était plus grave et je n'entends pas entrer dans le détail. Je me contente de dire ce que tout le monde savait à l'intérieur de la boîte et ce que des journalistes ont évoqué dans leur, comme Jean Guinel notamment, dans Le Point. Nous avons traversé une très mauvaise période parce que la réorganisation qui a été entreprise par M. Cousserand s'est inscrite déjà dans une fracture interne. La politique a commencé à jouer un rôle un peu trop important dans ce service. C'est-à-dire la cohabitation, autant elle s'était bien passée avec le préfet de Vatre, autant là, il y avait... Bon, je caricature pour gagner du temps, mais vous aviez les hommes de Jospin et vous aviez les hommes de Chirac. Bon, ce sont les hommes de Chirac qui ont perdu au profit des hommes de Jospin. À la limite, je m'en ficherais complètement... s'il n'y avait pas des incidences directes sur le travail. Cette réorganisation, que j'appelle le trou d'air de la DGSE pendant 2 ans, moi j'étais en poste à ce moment-là, j'en ai vu les incidences directes.
Quelle année ?
Écoutez, le préfet Lacarrière, M. Lacarrière, qui était directeur du renseignement, est parti en même temps, quasiment en même temps que le préfet de Vatre, fin 99. Donc moi j'étais là depuis 6 mois en Côte d'Ivoire. Et donc, cette affaire-là, j'appelle ça la felouque Cousserand, hein, mais alors que l'ambassadeur Cousserand est quand même un homme de très grande qualité, je regrette simplement qu'il ait fait confiance à des gens qui, à mon sens, ne la méritaient pas.
Jean-Pierre Auger, revenons sur votre parcours. Nous avons parlé du Niger. Vous quittez le Niger et après un intermède au siège à Paris, vous repartez sur le terrain au Tchad. Vous l'avez évoqué, nous sommes en 1994. C'est un retour pour vous qui aviez été à la tête du 2e escadron du 1er REC, régiment étranger de cavalerie, en 1983, 11 ans avant. Donc, qu'est-ce qui avait changé au Tchad en 11 ans ?
La seule chose que je dirais, c'est l'emprise du monde nordiste, musulman et de l'Est, soudanais et zaghawa. Je me suis rendu compte à quel point le N'Djamena que j'avais connu avant, que j'avais vu avant, avait changé. Il suffisait de regarder dans la rue qui s'y promenait. Cela dit, les mentalités étaient les mêmes, les rivalités ethniques étaient les mêmes. Le président, bon, à l'époque, c'était à Bray, quand j'y étais passé, mais le hasard m'avait fait rencontrer Idriss Déby. Voilà.
Justement, vous côtoyez Idriss Déby, qui à l'époque, donc en 94, est président du Tchad. Quels étaient vos rapports avec lui ? Vous l'aviez rencontré en 1985, je crois. Dans quelles circonstances ?
En 1983, en août, il y a eu des combats entre ce que nous appelions les libyo-coalisés et les troupes d'Idriss Déby. Nous-mêmes, dans le cadre de l'opération Manta, j'avais quitté la Centrafrique pour rejoindre la zone de Biltine, au-delà d'Abéché. Et ce qui est arrivé, c'est que les libyo-coalisés ont attaqué, une attaque surprise de nuit, sur les forces présentes, non loin de Biltine, à Harada. Et l'escadron, nous avions formé les tireurs d'automitrailleuses françaises, AML ou Cascavel. Donc, et la nuit, nous nous replions. Habituellement, nous ne restons jamais au même endroit. Et le lendemain matin, je suis allé au résultat et il n'y avait que des cadavres autour des AML. Donc, toute l'armée régulière composée de sudistes fuyait de partout, nous disait de fiche le camp, nous on avait des ordres inverses. Et j'ai suivi Idriss Déby. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant ces combats, Idriss Déby, qui était comme chef des FANT, s'est arrêté près de nous. J'avais pris avec lui ce qu'on appelle le chai, un thé chaud, et il m'avait offert une bouteille de whisky. J'en fais état dans le livre, parce que quand je l'ai revu en 94, quand je me suis porté volontaire pour aller près de lui, il ne se rappelait pas de moi, et je lui ai offert un petit cadeau, et quand il l'a ouvert et qu'il a vu une bouteille de Vat 69, il s'est demandé ce que... Et je lui ai rappelé, et il s'en est tout de suite souvenu.
Et cela vous a servi pour la suite
Oui, parce que là, je le dis, je n'hésite pas, quand les faits sont, à mon avis, assez graves, à les citer, à égratigner certaines personnes. Il se trouve que mon prédécesseur avait obtenu du président Déby de refuser un ami qui était désigné pour être auprès de lui. Il voulait qu'il aille au mieux près des services de renseignement. Et le préfet de Vatre a été ferme et a dit non, je propose, il m'a proposé ma candidature. Donc j'étais reçu assez fraîchement et j'ai été très prudent, j'ai pas bougé pendant 15 jours, ce n'est que lorsque je l'ai vu que...
Et la bouteille de Vat 69 a fait le reste.
Et oui, la bouteille de Vat 69 a fait le reste.
Quel rôle avez-vous joué à la fin des années 94 lorsque des tensions sont apparues entre la France et le Tchad ? Tensions auxquelles d'ailleurs RFI semble avoir donné un large écho à l'époque.
Oui, là on a eu des périodes difficiles, mais je l'écris également, j'ai toujours eu un très bon contact direct avec le président Déby. Il y a eu des périodes de tension. Idriss Déby avait compris depuis bien longtemps ce qu'il pouvait attendre du service. Et notamment, à l'époque, d'être en liaison directe, permanente avec lui. Il y a des choses qu'un ambassadeur doit faire, peut faire. Il y a d'autres choses qu'un service, à l'époque, pouvait faire.
Les journalistes qui travaillaient à l'époque sur ces relations entre le Tchad et la France, RFI, mais aussi d'autres, bien entendu, notamment Stephen Smith, cela, pour vous, c'était un souci ?
Oui, parce que pour les Africains, Radio France Internationale, c'est la voix de la France. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui s'en réclame et qui vilipende à longueur de semaine l'action du président, c'est un petit peu compliqué. Donc il me revenait de lui dire que ça n'avait guère d'influence sur la politique française. Et Stephen Smith était un champion dans le domaine, franco-américain. S'il avait mis autant de zèle à attaquer Issenabré sur ses turpitudes et ses massacres que pour Déby, ça serait mieux passé.
Jean-Claude Auger, vous prenez la direction du service Afrique de la DGSE en 1996. Vous la dirigerez jusqu'en 1999. Quelle sera votre action au sein de cette direction ?
J'ai été bien formé par mes prédécesseurs et j'ai poursuivi dans la même direction. Je me suis impliqué vraiment au maximum pour rendre cette structure opérationnelle. On m'a donné du personnel de qualité dans les jeunes capitaines et ma déception fut d'autant plus grande d'apprendre 6 mois après avoir passé cette structure qu'elle était complètement démantelée. Comme je le dis, nous n'avions plus notre budget, le secteur n'avait plus, enfin, ce qu'on appelait le SRPN n'avait plus la recherche à son compte qui avait été déléguée à une autre structure, n'avait plus la formation des officiers traitants en compte, n'avait plus la désignation des mêmes OT en Afrique à son compte. Enfin bref, comme je le dis, cette structure est devenue un bureau d'analyse confié à un responsable déresponsabilisé, quoi.
D'où votre intérêt pour retourner sur le terrain. Et justement, viennent ce que vous nommez les turbulences ivoiriennes. En quoi la situation à Abidjan était-elle turbulente du point de vue français lorsque vous y arrivez ?
Bon, tout d'abord, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, je ne savais pas ce qu'il adviendrait du secteur. Ça s'est passé quelques mois après. Alors, pourquoi les turbulences ? La Côte d'Ivoire, pour la France et pour mes prédécesseurs, souvent d'ailleurs, c'était un pays dont on n'imaginait même pas qu'elle puisse sombrer dans la guerre civile. C'était un des phares de notre présence en Afrique. Et pour le service, servir en Côte d'Ivoire avait été pendant de nombreuses années un poste très important. Du fait que Félix Houphouët-Boigny était même, j'allais dire, le chantre et le promoteur de la France, qu'on appelait la France-Afrique. Donc, on n'y était pas vraiment préparé. Les politiques n'y ont pas vraiment cru. Quand je suis parti, on m'a bien dit que gauche et droite étaient en faveur de Bédier. Bon, on a vu la suite.
Justement, à propos d'Henri Conan Bédier, vous écrivez qu'il se complaisait dans un statut d'héritier de Félix Houphouët-Boigny, s'enrichissant sans redistribuer, coupé des réalités. Est-ce cela qui vous incite à créer une sorte de réseau parallèle à votre fonction de PLR auprès de Bédier ?
En fait, je me suis vite rendu compte que le PLR n'existait plus. J'avais un lien direct avec le directeur de cabinet. Lui, je l'avais vu, mais il n'existait plus. Et quand je dis que j'ai cru que je le relancerais, je rêvais parce que le PLR était condamné depuis bien longtemps. Non, moi, vous savez, on a eu quand même plusieurs tentatives de coup d'État, 3 chefs d'État différents en 3 ans. J'ai dû sans arrêt redistribuer les cartes et rechercher de nouvelles sources d'informations.
PLR, cela veut dire
poste de liaison et de renseignement.
Lorsque le président Conan Bédier est renversé par les mutins de Robert Gay, en tout cas Robert Gay a suivi les mutins, êtes-vous surpris ? Paris, qui avait joué la carte Bédier, n'avait il n'a rien vu venir.
Alors oui, là c'est vraiment, j'allais dire, un de mes grands échecs. Pendant 6 mois, j'ai envoyé des notes qui, semble-t-il, traduisaient un peu la situation qui n'était guère plus brillante. L'ivoirité faisait des ravages, les baoulés étaient contre les bétés et les baoulés se méfiaient des dioulas. Enfin bref, ça je l'avais dit. Mais je dis dans mon livre quand même qu'avant de prendre quelques jours de repos, puisque la Côte d'Ivoire était calme, j'avais un jeune adjoint, il pouvait faire pendant une semaine les choses courantes. Et avant de partir, j'avais pris grand soin de voir Kwame, le chef de la gendarmerie, de voir Tani, qui s'occupait de la coordination du renseignement, de voir l'attaché de défense sur ses propres... Enfin, tout le monde était serein. Et il s'est passé, mais là, je ne suis pas étonné. On peut s'imaginer qu'un coup d'État est possible, mais dire le jour et la date, c'est impossible.
Merci Jean-Pierre Auger. À lire votre livre mémoire, Afrique Adieu, publié chez Mareuil Éditions. Géopolitique, un magazine de RFI mis en onde et réalisé par Nathalie Laporte. Merci de votre fidélité. Merci également à Cécile Lavolo. Dans un instant, le journal.